Mais d'abord, devant moi, deux femmes passionnantes. Lorraine Pagé, bonjour.
Bonjour.
Alors, Lorraine Pagé, bien sûr, retraitée, mais qui a été enseignante et présidente de la Centrale de l'enseignement du Québec. Vous avez été la première femme présidente de cette grande centrale, d'ailleurs. Vous siégez sur le Conseil supérieur de la langue française. Et Nathalie Elgrabli-Lévy, bonjour, Madame Elgrabli-Lévy. Professeure à HEC Montréal, chroniqueuse au Journal de Montréal et membre du Conseil d'administration de l'Institut économique de Montréal et du groupe TVA. Écoutez, c'est d'une part, bien sûr, les positions de François Legault qui nous ont donné envie de parler ce matin de la rémunération des professeurs et de leur évaluation. Est-ce que les deux doivent aller ensemble? Puisque c'est un peu lui qui a lancé ce débat au mois d'avril dernier en déposant ses recommandations, enfin les recommandations de sa coalition pour l'avenir du Québec. Et le débat, ben, il a refait surface à la mi-septembre lorsque l'Institut économique de Montréal a donc publié un sondage qu'il a commandé à Léger Marketing et qui indique que les Québécois pensent que la rémunération des enseignants doit être basée en partie sur leur performance et que les incompétents devraient pouvoir être congédiés. Alors, ça soulève beaucoup de questions. D'abord, est-ce que vous pourriez détailler un petit peu, Mme Elgrabli-Lévy, là, vous devez bien le connaître, ce sondage, vous aviez même rédigé la note qui l'accompagnait. Qu'est-ce qu'on voulait au départ? Qu'est-ce qu'on cherchait à travers ce sondage? Quelle était la question de base qui vous a motivé à le lancer?
Ben, tout simplement de savoir, de prendre le pouls de la population, de savoir quelle est leur perception par rapport à la rémunération des enseignants. Et aussi, une des questions qui était très importante, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les professeurs qui sont incompétents, ceux qui ne réussissent pas à transmettre leur message, à intéresser les étudiants, à livrer la marchandise finalement. Est-ce que il est possible, est-ce qu'on considère socialement que c'est acceptable de s'en débarrasser ou est-ce qu'il faut les garder? Parce qu'il faut préciser qu'à l'heure actuelle, c'est très difficile dans le secteur public, en particulier c'est très difficile de licencier un enseignant sur la base de sa performance.
Il faut qu'il y ait plutôt une faute morale, en fait, pour qu'on puisse
Dans la quasi-totalité des cas, effectivement, à moins qu'il y ait eu une faute morale ou un acte criminel, le fait que le professeur soit juste pas bon, c'est généralement pas considéré comme étant suffisant.
Lorraine Pagé, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on laisse les moins compétents aller comme ça sans les encadrer?
Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des structures? Si on pose la question, est-ce que les incompétents doivent pouvoir être congédiés? Tout le monde va répondre oui à ça, là. À moins qu'on soit complètement détaché de la réalité.
Ou qu'on se balance complètement de l'éducation des enfants.
Se balance complètement de la qualité du service, c'est pas le cas. La loi de l'instruction publique prévoit d'ailleurs qu'on peut être congédié non seulement pour immoralité ou incapacité, mais aussi pour incompétence. Les conventions collectives ont tout un système prévu pour sanctionner les enseignants qui sont en difficulté, que ce soit sur le plan moral ou sur le plan des compétences. Il faut aussi savoir que quand on se décide de s'en aller dans l'enseignement, on a une formation universitaire de niveau baccalauréat de 4 ans. Avec 1 an de stage pendant lequel l'étudiant est soumis à une évaluation. Donc, avant même d'arriver dans l'enseignement, on est déjà capable de déceler les candidats ou les candidates qui ne sont pas adéquats pour cette profession-là. Mais après ça, on devient enseignant, puis on n'a pas son statut de régulier avec la permanence avant plusieurs années. Donc, les moyens sont en place pour faire que les personnes qui sont pas faites pour enseigner puissent être vraiment rencontrer et leur dire, ben c'est pas ta place, va-t'en ailleurs.
Cela dit, on a tous eu des professeurs moins bons. On a tous eu une couple qu'on dirait pourrie. On a des enfants, enfin, j'en ai deux, je les ai vus passer à travers le système, avoir des professeurs, mais beaucoup de professeurs extraordinaires, allumés, compétents et dévoués. Il y en a eu quelques-uns qui étaient assez lamentables. Comment ça se fait, d'après vous, Mme Elgrabi-Lévy, que s'il existe un mécanisme comme ça, il subsiste toujours dans le système certains professeurs dont on se dit que la compétence est pas suffisante?
Ben, alors, justement, on nous parle de, Mme Pagé nous dit, ben, il y a la loi, il y a un mécanisme, il y a un système. Oui, mais les faits. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. En pratique, est-ce que ces professeurs incompétents, est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on s'en débarrasse? Et le fait est, c'est que, il reste en place. Probablement, alors ce que ça signifie, c'est que le mécanisme doit mal fonctionner. Il doit y avoir des failles qui font en sorte que il est pratiquement impossible, à moins de constituer un dossier que l'on va traîner pendant plusieurs années sur le dos du professeur, pour peut-être éventuellement un jour, si vraiment on est bon, arriver à s'en débarrasser. Dans les faits, c'est pas vrai qu'il y a un mécanisme qui fait un genre d'écrémage.
Il opère peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez, si je comprends bien.
Ni rapidement, ni en fait, ni même à plus long terme. En tout cas, justement, le fait que dans nos écoles, on retrouve beaucoup de ces professeurs qui, après un certain nombre, peut-être qu'en commençant au départ, peut-être qu'ils sont tout motivés, mais après un certain nombre d'années, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui rendent pas le service qu'on attend. D'où justement peut-être l'intérêt de changer leur forme de rémunération, de créer une incitation de façon à maintenir la flamme, l'étincelle pour ceux qui l'avaient au départ ou peut-être pour l'allumer à ceux qui l'avaient repéré.
Et ce qui est particulier, Mme Elgrabi-Lévy, c'est que vous prenez vos exemples du côté de l'industrie. Vous dites, dans le commerce, on offre des primes aux vendeurs. Dans l'industrie pharmaceutique, les représentants sur la route, on leur offre des primes. Est-ce que, finalement, vous êtes en train de dire qu'on devrait gérer un peu l'école comme une business?
Ben, regardez, l'être humain, il est fait comme il est fait. C'est-à-dire qu'on réagit aux incitations. Dans la plupart des emplois que nous occupons, nous sommes évalués en fonction de notre travail. Vous, je suis certaine que votre employeur vous évalue. Moi, à l'université, on est évalué également. Donc, on est évalué et également la rémunération dans bien des secteurs d'activité crée une forme d'incitation pour le travailleur à se dépasser, à donner plus d'efforts. Oui. Alors, je n'arrive pas à trouver une bonne raison pour laquelle l'enseignant ferait partie d'une classe à part, qui ne réagirait pas aux incitations.
Mais Mme Bagil, l'enseignant est évalué, ne serait-ce que parce que ses élèves le sont, dans un sens, on peut le dire.
Écoutez,
comme ça.
L'enseignant, là, c'est probablement une des professions où il y a le plus de mécanismes d'évaluation formels et non formel. Je parlais tantôt de toute la période de stage d'un an supervisé.
Mais on parle.
Après ça, quand vous arrivez dans la carrière, vous avez vos élèves, vous avez les parents de vos élèves, vous avez le comité de parents dans l'école, vous avez le conseil d'orientation de l'école, vous avez le directeur d'école, vous avez le commissaire d'école, parce qu'il y a des commissions scolaires, il y a des commissaires, vous avez le protecteur des services, qui est un poste qui a été créé dans les commissions scolaires, puis vous avez un mécanisme au niveau du ministère. Il y a peu de professions où il y a autant de mécanismes d'évaluation, comme je dis, formels ou non formels. Deuxièmement, c'est que, pour moi, là, juger un enseignant sur la base du rendement, c'est comme dire on va rémunérer les médecins sur le taux de guérison ou bien les économistes s'ils ont vraiment bien prévu la date de la dépression ou de la crise économique.
La comparaison me semble intéressante. En tout cas, elle provoque, j'aimerais avoir votre réaction.
Ben, en fait, ce dont je parle justement dans la note économique, c'est qu'on ne base pas l'évaluation ou la rémunération d'un enseignant uniquement sur le rendement de ses élèves. C'est probablement un des premiers points qui a été soulevé, ni sur le rendement, ni sur le progrès, uniquement parce que, effectivement, il y a quelque chose de profondément injuste. En revanche, il existe une série de variables que l'on pourrait prendre en considération qui nous permettent d'évaluer si un professeur est bon dans sa classe. On peut regarder, oui, effectivement, le rendement et le progrès, mais ça ne serait qu'un élément parmi d'autres. On peut regarder sa façon de gérer les classes.
Qu'est-ce que ça veut dire, sa façon de gérer les classes?
Est-ce qu'il y a de la discipline dans sa classe ou est-ce que les étudiants se lèvent, ça parle dans tous les sens? Parce que s'il y a bien une chose qu'on sait en enseignement, c'est que si c'est vrai qu'un professeur qui gère parfaitement bien sa classe n'est pas nécessairement un bon prof, parce qu'il peut être juste autoritaire, mais en revanche, quelqu'un qui ne gère pas sa classe, c'est impossible de penser qu'il a une certaine pédagogie, qu'il transmet un message, qu'il enseigne quelque chose aux enfants qu'on lui confie. Donc oui, alors la gestion des classes, le monitorat, les activités pédagogiques qu'il organise, le matériel pédagogique qu'il va produire.
Mais dans la mesure où Mme Pagé dit que tout ça est déjà supervisé, encadré par plusieurs étapes, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on dise? Bon, tant d'heures de monitorat égale une prime de temps, tant de silence dans la classe égale une prime de temps, qu'on quantifie ça et qu'on prime au résultat.
Moi, je vois pas comment, parce que Mme Pagé nous a parlé du commissaire d'école, du ministère. Ils ne surveillent pas les professeurs, ils vont regarder l'établissement en général, mais qu'est-ce qui se passe
dans la soif des plaintes, puis ils étudient les cas. Là, vraiment, c'est
dans
pas
combien,
ce qui se passe.
Dans combien de cas?
Écoutez, madame, l'année passée, avec un professionnel,
de mot, oui.
Non, ben, vous avez eu beaucoup de temps au micro, là, je vous ai remarqué, puis je vous ai bien écouté.
Allez-y.
Mais ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, si on compare l'Ontario avec un ordre professionnel et le Québec qui n'a pas d'ordre professionnel, le nombre de congédiements dans les deux provinces est équivalent. Donc, de faire croire que dans la plupart des provinces où on a mis en place un mécanisme d'évaluation, on a confié ça à un ordre professionnel et Le constat qu'on est obligé de faire, c'est que ça n'a pas changé le nombre de congés abandonnés par année.
Alors là encore, si Mme Pagé, vous aviez lu la note économique dont il est ce matin question, il n'est pas question d'avoir une façon d'évaluer la performance et d'offrir une rémunération qui sera mur à mur à l'ensemble du Québec. Au contraire, un autre point qui à mes yeux est très important, étant donné que chaque établissement à ses contraintes particulières et ses objectifs qui lui sont propres, c'est de donner au directeur d'école suffisamment de marge de manœuvre et de latitude pour qu'il se fasse lui-même, en fonction de ses objectifs, un cadre d'évaluation plutôt que d'avoir quelque chose...
Et qu'il ait carrément le pouvoir de donner des primes à certains enseignants, parce que c'est ça qu'on en revient.
La question des ressources, on va pas tout mélanger non plus.
Il s'agit pas de mélanger, mais c'est parce qu'il y a un problème de vase communicant. Là, l'argent, elle vient de quelque part, elle vient de nos impôts, de nos taxes, elle est établie par le gouvernement.
Est-ce que vous êtes en train de me dire que en ce moment, la façon dont les dollars sont dépensés dans le secteur de l'éducation est optimale, qu'on ne peut absolument pas faire de déplacement de base communicant?
C'était pas ça la question.
Non,
la question que je vous posais, c'est comment le directeur va-t-il établir sa grille salariale?
Je vous y réponds, justement. Si vous me dites que il n'y a pas un sou que l'on puisse trouver à l'intérieur des 15,5 milliards de dollars qui existent à l'heure actuelle dans le système d'éducation, je vous dirais oui, effectivement, où est-ce qu'on va aller le chercher? Moi, je suis pas mal convaincue que on ne dépense pas bien l'argent tel qu'il est alloué actuellement.
Par exemple, très bien, Nathalie Gravy, est-ce que ça veut dire pour vous que, étant donné que vous prônez une plus grande latitude des directions d'école, est-ce que vous iriez jusqu'à dire sauvons de l'argent, abolissons les commissions scolaires? C'est quelque chose qui revient beaucoup là, dans le discours de certains partis
politiques. La raison d'être commission scolaire, il va falloir qu'elle travaille fort pour expliquer à quoi elles servent exactement. Si on pousse un petit peu le raisonnement, je vous dirais oui, on pourrait certainement couper au moins de l'argent sur les commissions scolaires parce que leur rôle, leur fonction, leur contribution à la qualité de l'enseignement, moi je ne la vois pas.
Bon. On pourrait se faire nous aussi un genre de sondage informel, on a beaucoup d'auditeurs, vous pourriez réagir à ça, les commissions scolaires, ça sert à quoi? Puis comment voyez-vous la rémunération des enseignants?
Je suis pour l'abolition des commissions scolaires, sans du même souffle dire qu'il faut lier la rémunération des enseignants à une évaluation dont on n'est même pas capable de définir les contours, dont on n'est même pas capable de trouver...
Oui, on est capable.
Vous êtes peut-être capable, mais quand on fait le débat public, on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça. Même les expériences ailleurs ne sont pas probables.
Allons du côté de Washington. Vous le connaissez un peu, le dossier de ce côté-là. Il y a une nouvelle, une dame dans l'administration, qui débarque à Washington, qui décide que... Michelle Rhee, voilà. Un an après avoir été nommée en 2007, elle débarque et un an plus tard, elle avait congédié 500 enseignants, établi un système de primes, mis à la porte une trentaine de directeurs. Qu'est-ce qu'on remarque de ce côté-là? Madame va à 100 000 à l'heure, elle a changé beaucoup de choses, elle semble avoir une vision très claire. Quels sont les constats?
Les expériences au niveau de la rémunération au mérite, elles sont très nombreuses. Elle a pris un virage très très radical, très rapide. Ça fait à peu près un an que les mesures ont été adoptées. Quels sont les constats? Il faudrait regarder. D'abord, on ne peut pas évaluer l'impact ou l'efficacité de ce genre de mesures après à peine une année scolaire. Il faut regarder après 2 ans, 3 ans. Après ça, on voit vraiment quelle est la nouvelle mentalité qui a été instaurée, comment les enseignants réagissent à ce système-là. Pour les systèmes qui durent depuis plus longtemps, qui sont pas des expériences tout à fait récentes, il y a des systèmes qui ont bien fonctionné, il y en a d'autres qui ont moins bien fonctionné.
En fait, ce que j'ai lu, j'ai pas tout lu ce qui concerne le sujet, c'est qu'on constate quand même, Nathalie El-Grabli, que les primes vont être accordées comme par hasard beaucoup plus souvent dans des quartiers riches, avec une clientèle plus aisée.
Mais regardez, le fait qu'il y ait eu des expériences où ça n'ait pas fonctionné, on en fait état, on ne les cache pas. Il faut regarder pourquoi ça n'a pas bien fonctionné. Et les endroits où ça a bien fonctionné, quelles sont justement les conditions de succès? Et à partir de là, on est capable de créer un programme.
Où est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce qu'il y en a?
Il y a notamment un système qui s'appelle le ProCompt. Professor Compensation aux États-Unis, au Texas, qui touche les enseignants du secteur public. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au départ, évidemment, les enseignants étaient plutôt réfractaires à ce genre de mesures. C'était introduit sur une base volontaire. Ceux qui voulaient s'y joindre le pouvaient. Les autres qui voulaient maintenir leur rémunération traditionnelle le pouvaient également. Après quelques années, les professeurs y allaient de façon volontaire.
Lorraine Bagé, qu'est-ce que vous penseriez de cette idée-là, qu'on donne le choix aux professeurs? Vous pouvez suivre le cheminement habituel de l'échelle salariale ou vous pouvez adhérer à un système d'évaluation qui risque de vous donner des primes. Ça pourrait sembler quand même assez
non, équitable. Parce que je pense que ça nous ramène à des problèmes d'iniquité.
Pourquoi?
D'injustice. Parce que si tu veux vraiment fonctionner dans un système qui, et c'est pas celui que je préconise, mais qui évalue la fonction, qui évalue la tâche en fonction de certains critères établis, il faut que ça s'applique à tout le monde. Autrement, tu peux voir des gens qui disent, moi je suis pas problème, donc je vais y aller faire l'évaluation qui me donnera une prime. Et on aura passé à côté du problème que Madame dénonçait en début d'entrevue, c'est-à-dire les enseignants qui ont des difficultés. Moi, je regrette, mais ce que j'ai lu, c'est que à peu près tous les systèmes ont amené des effets pervers. Soit on tient compte des notes, et là on a assisté à un gonflement des notes.
Ou à une bataille pour les meilleurs élèves, ce que j'ai vu dans une autre
source. On a assisté à un phénomène de rétention dans les écoles en difficulté. Les enseignants ne veulent pas y aller. Ils savent que quand va avoir l'évaluation de leur rendement, ils vont nécessairement avoir un jugé comme ayant moins bon rendement dans les milieux défavorisés. Le taux de roulement a augmenté. Donc, à peu près partout, il y a eu des effets pervers. Et je pense qu'avant de se lancer dans un système qui nécessiterait la mise en place d'une infrastructure importante, ben il faut se demander si notre système actuellement, tel qu'il est, n'a pas juste besoin de certains correctifs.
Bon, ben venons-en à ça. Est-ce qu'effectivement, je vous écoutais parler, Lorraine Pagé, de ces nombreux paliers de supposés encadrement et tout. On a commencé en faisant le constat, quand même, toutes les trois, que c'est vrai qu'il y a des professeurs qui sont pas bons, même s'il y en a une majorité qui sont excellents et compétents. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer?
Écoutez, présentement, il y a un mécanisme qu'on appelle la supervision pédagogique, qui donne un rôle très important aux directions d'école pour justement faire la supervision sur le plan pédagogique, parce que c'est de ce dont on parle, des enseignants, et amener des correctifs, soit de la formation, soit de l'accompagnement pour permettre à ces enseignants-là d'améliorer leur performance. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans la plupart des écoles, les directions d'école disent ne pas ou peu en faire. Donc, je pense que là, il y a vraiment un terrain qui devrait se défricher, se labourer davantage, parce que on a ce qu'il faut pour faire ce travail-là. Mm-hmm. Mais les directions d'école disent souvent, je trouve ça compliqué. Ben oui, c'est compliqué.
On
n'a
pas assez de ressources, on est épuisé.
C'est compliqué, ça peut pas être... moi, je trouve que le mot que Madame utilise depuis le début de l'entrevue est très révélateur, se débarrasser. Ben, on peut pas se débarrasser de quelqu'un, puis que ce soit... sur l'air d'aller, là. C'est compliqué faire que quelqu'un est jugé non compétent, a des mesures d'accompagnement et qu'ultimement, on en arrive à un congédiement s'il y a des problèmes majeurs.
Mais que le système soit perfectible, Nathalie El-Grabli, sans en venir à des solutions aussi radicales que congédiement plus systématique ou prime au rendement, que le système puisse être amélioré avec ce qu'il a comme structure actuelle, est-ce que vous pouvez être ouverte à ça?
Ben, faites-moi des propositions qui soient tangibles.
Ben, en voilà une concrète.
Mais en fait, Madame Pagé a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Elle a dit non, on peut pas introduire ce genre de système ou une rémunération en fonction de la performance. C'est une raison d'équité. Ça serait inéquitable. En fait, moi, ce que je trouve vraiment inéquitable dans ce système, c'est que le professeur qui se décarcasse, qui se donne à 110%, qui passe ses fins de semaine à monter du matériel pédagogique, qui enquête ses élèves de façon exceptionnelle, au bout du compte, est exactement la même paye que celui qui fait zéro effort. Ça, à mes yeux, c'est ce qu'il y a de profondément inéquitable. Et le signal que ça envoie justement au professeur qui se dévoue, c'est après, au début, peut-être qu'il va le faire par amour de sa profession, mais je peux pas croire qu'après un certain nombre d'années, il va pas se dire, mais au bout du compte, j'ai exactement la même paye de mon voisin. Pourquoi est-ce que je sacrifie mes fins de semaine?
Mais après, c'est pas un débat qui court chez les enseignants, en tout cas dans la grande majorité. Les enseignants, quand ils parlent de leur rémunération, le problème qu'ils vont le plus souvent soulever, c'est est-ce qu'on est suffisamment payé quand on se compare à d'autres professions?
Alors qu'on a étudié aussi longtemps que des ingénieurs.
Est-ce qu'on est assez
bien payé?
Et souvent même, quand on leur demande qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans vos conditions de travail, le salaire n'arrive même pas en première place. C'est plus le nombre d'élèves dans ma classe, l'accompagnement de professionnels pour les enfants en difficulté, le temps pour le perfectionnement et la formation, qui est souvent revendiqué davantage que l'amélioration du salaire.
Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui font même pas ce choix de carrière à cause de ce facteur-là, Lorraine Pagé. Ah, je le vois, les adolescents de l'âge des miens, ils sont assez lucides déjà à 16-17 ans.
Alors, est-ce que c'est un choix universitaire de... C'est pas ce qu'on appelle une formation de premier choix. Les enseignants, les jeunes choisissent d'autres formations et leur deuxième, leur troisième, leur quatrième choix, c'est dans la formation des maîtres. Donc, il y a déjà une idée autour de la valorisation de cette fonction-là qui est déficiente. Mais quand on leur
maintenant,
mais quand on leur parle, ce n'est pas le salaire, c'est la reconnaissance qui est accordée à cette profession-là.
On est en train de dire aux travailleurs, voici ce que comment je valorise ton travail. Le salaire, c'est ça.
Il peut y avoir de la place pour augmenter le salaire des enseignants. Je ne dis pas que leur salaire n'aura pas besoin d'être vu à la hausse, mais pour moi, si le salaire devrait être plus élevé, mais il doit être plus élevé, point. Indépendamment du lien qu'on fait avec une évaluation au rendement ou à la performance. À mon avis, c'est deux questions différentes.
Mais globalement, Nathalie El-Grabli, vous êtes d'accord pour dire que cette profession-là, étant donné la responsabilité que ça implique de former les enfants qui seront les adultes de demain, est pas très payante, puis que globalement, elle devrait l'être plus en partant et que ça attirerait probablement des meilleurs candidats, non?
Ben, s'il y avait une rémunération en fonction de la performance, je pense effectivement que ça attirerait des meilleurs candidats. Et l'idée, c'est ça, c'est de retenir les meilleurs candidats. Je veux pas voir un beau professeur aller se diriger vers une autre profession. Ça serait vraiment dommage. On prive nos enfants de bons professeurs. 20% des jeunes, d'une part, et également aller chercher les meilleurs. Oui, les conditions de travail, c'est une chose, mais la paie, ça en fait partie. Et j'arrive pas à comprendre pour quelle raison. La paie, c'est important pour tous les travailleurs de la société, mais quand on arrive aux enseignants, on nous dit, ah non, pour eux, ça marche pas.
Non, c'est pas ça qu'on a dit. C'est que le salaire peut avoir besoin d'être augmenté. Je suis la première à dire que quand on le compare à d'autres professions, ce n'est pas adéquat. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est de faire que ce salaire-là augmenté le soit sur une base de performance, de prime au rendement ou à la performance. On a aujourd'hui des jeunes qui rentrent dans l'enseignement. 20% des jeunes qui rentrent dans l'enseignement après 5 ans abandonnent. Et la première raison de leur abandon qu'ils identifient, ce n'est pas le salaire. C'est les conditions générales de l'emploi et le manque de reconnaissance et de soutien. Mm-hmm. Alors, il faut bien tenir compte de cette réalité-là que les jeunes eux-mêmes dans la profession nous donnent. C'est le portrait qu'ils nous renvoient. On peut bien faire semblant qu'ils ne savent pas pourquoi ils abandonnent, là, mais les raisons qu'ils nous donnent, c'est celles-là.
Ben alors justement, parlant du soutien, parmi les conditions gagnantes des programmes de rémunération au mérite, le rôle de la direction de l'établissement, je parle pas de la direction au niveau du ministère, ça c'est beaucoup trop loin du quotidien du professeur, mais le rôle de la direction est très important.
Donc, petite parenthèse, Nathalie El-Grabli, parce qu'il avait été évoqué, entre autres, que ce qui pourrait sanctionner, entre guillemets, la performance du professeur, ça pourrait être, par exemple, un examen du ministère en début d'année, un examen du ministère en fin d'année. On regarde s'il y a eu progrès, on quantifie, puis bang, on y va avec la prime. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là?
Je pense que ça, on utilise juste une seule variable, c'est injuste, effectivement. On peut pas prendre uniquement les résultats au ministère et tirer des conclusions. Il faut vraiment, et justement, un système qui fonctionne bien aux États-Unis, le ProCamp, lui, il va chercher toute une série de variables, dont justement le monitorat, les activités parascolaires. Donc, ça prendrait en considération le fait que certaines années, les professeurs peuvent tomber dans une mauvaise classe. Ça se produit, ça arrive. On peut également corriger pour avoir des études longitudinales, pas regarder les résultats une année en particulier, mais sur 2-3 ans, avec des banques de données que l'on peut construire. On peut arriver à ce genre de résultats. Donc, pour avoir une mesure qui est beaucoup plus détachée du résultat immédiat des élèves à un moment précis dans le temps, mais avoir un portrait beaucoup plus global de la performance.
Bon, et donc, en terminant, je pense qu'on est d'accord sur quelques points. Globalement, ça pourrait être une profession plus payante, ce serait positif, ce serait un message positif envoyé là-dessus.
Oui.
Oui. Oui. On est d'accord?
Oui. Globalement.
On va dire globalement sur ce
d'accord. Tout à fait. Hein?
Bon. Et deuxièmement, on va être d'accord sur le fait que c'est perfectible. Madame Pagé croit que ça devrait se faire à l'intérieur des mécanismes existants qu'on pourrait mettre en place et en action.
Mais même des choses qui pourraient être réévaluées. Oui. Je pense, par exemple, dans la sélection des étudiants en formation des maîtres, à l'importance donnée à la maîtrise du français. Bon, il y a place pour des améliorations.
Bon, certainement. Madame Ingrabie doit être contente d'entendre ça à tout le moins. Ben, merci infiniment à toutes les deux. Puis, bien sûr, on invite nos auditeurs à réagir. Hein, ça nous concerne tous, le système d'éducation. Médium large en un seul mot, @radiotradeunioncanada.ca. Médium large, @radiotradeunioncanada.ca. Merci, Lorraine Pagé, retraitée, qui a été enseignante, présidente de la Centrale de l'enseignement du Québec, qui siège au Conseil supérieur de la langue française, qu'elle évoquait en terminant. Et Nathalie Elgrabie-Lévy, professeure à HEC Montréal, chroniqueuse au Journal de Montréal et membre du Conseil d'administration de l'Institut économique de Montréal et du groupe TVA. Bonne journée toutes les deux.
Merci.